tu vu le lockout. On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup, ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goom, si tu gardes pas tes mains, oh, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel, jusqu'à Canelo. Get on art, le steak de Buckingham. La légende, le buzz qui m'écoute. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town.
En direct d'une cuisine de Rosemont, Montréal. Et là, ceux qui m'écoutaient, des fois, il y avait un bruit de fond. Ou si vous m'avez déjà vu en vidéo, un magnifique frigidaire brun. Eh bien, tenez-vous bien, mon frigidaire a rendu l'âme. Et il est parti à moitié au dépotoir Rosemont. C'est mon propre père qui est aussi homme à tout faire dans cette maison. Qui a commencé à aller porter morceau par morceau le frigidaire à la dompe. Comme ça, il va être moins pesant quand on va le sortir. Donc, la fin d'un frigidaire, la fin d'une époque mythique, une autre chose qu'il va falloir que je m'ajette. Comme quoi la vie, je veux juste vous dire que la vie est remplie de ces petites surprises-là. Puis c'est ça qui me fait peur un peu, parce que l'autre fois, je voulais m'acheter une maison. Puis là, vivre normalement, tu sais, comme vous autres, les auditeurs. Mais là, je me suis dit, si je m'achète une maison, puis que là, les prix sont déjà élevés, puis que j'étais à la gorge, puis là, j'essaye de vivre, puis j'étais à la gorge, puis j'ai de la misère. Mais là, qu'est-ce qui va arriver si mon frigidaire explose, puis que j'ai juste l'argent pour payer ce que j'appelle mon hypothèque? C'est parce que là, je vais avoir l'air fou, tu sais, je pourrais pas m'acheter un autre frigidaire. Fait que pour régler tout ça, j'ai décidé d'être en couple. Fait que donc là, je prends les demandes, les applications. Donc, écrivez-moi, Laurent Poulain, sur Facebook. S'il y a des filles intéressées à payer la moitié de mon hypothèque et de mes futures réparations. Je vous prépare dans les prochaines semaines, je veux dire, ça bouillonne dans mon cerveau. La semaine prochaine, on va avoir en entrevue exclusive Martine Vallière-Bisson en direct de l'aéroport à Dorval sur le point de partir pour affronter son adversaire Laura Grib 6-0 en Pologne le soir du 24 juin prochain. Martine, juste avant de mettre le pied dans l'avion, elle va me donner une entrevue exclusive de 4 à 9 minutes, dépendamment de la longueur de ses réponses. Et ce sera diffusé ici même, en exclusivité exclusive, la semaine prochaine. On a vu les sondages de Numéris qui ont été bons pour certains, mauvais pour d'autres. Alors, j'aimerais dévoiler mes codes d'écoute. Alors, le podcast, dans les 133 derniers épisodes, a une moyenne de 209 auditeurs pour un total avoisinant les 30 000 auditeurs. Le podcast Laurent s'écoute parler. Plus de 30 000 personnes sont à l'écoute. En fin de semaine, il y a eu plusieurs combats. Je vais vous parler de deux boxeurs que je déteste, trois boxeurs. Ça va être un podcast de déteste, de haine, de détestage. Edgar Berlanga, Jamie Munguia et Trevor Bryan. Je vais m'en prendre violemment aux trois pendant le podcast. Sinon, on va faire le tour des nouvelles internationales. Et étrangement, ça va être un podcast peut-être plus tourné à l'international, puisqu'on va réserver le podcast la semaine prochaine au local. Ça va être la semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, on va célébrer le Fleur de Lys et je vais vous chanter du Paul Piché, mais la semaine prochaine. Donc, voilà qui fait le tour aussi. Je voudrais me plaindre violemment. J'ai une méga migraine. Okay? J'ai commencé le podcast avec une migraine en avalant des Tylenol. Donc là, présentement, je souffre, mais mon corps est bien fait. Les Tylenol réagissent vite. Donc, pendant le podcast, vous allez me voir mieux filer. C'est quand même... C'est rendu interactif, là, la radio, maintenant. Je voudrais aussi vous mentionner que, là, sur un coup de tête, j'ai rasé ma barbe hier. Puis j'ai l'air de... J'ai une grosse face. Je ressemble à King Kong Bundy, mais avec une barbe de 3 jours, tu sais. Je veux dire... tu sais, dans la vie, là, les gens, ils veulent ressembler à Brad Pitt ou à Antonin Descaries. Moi, je ressemble à King Kong Bundy. Je veux dire, ainsi va la vie. Et j'aimerais rappeler que ce podcast est rendu disponible grâce au support financier des Fermes Saint-Martin. Les Fermes Saint-Martin, nos animaux sont bien traités et ça se ressent dans l'assiette.
Mais que ce soit Johnny Gaudreau, que ce soit Hulk Hogan, que ce soit King Kong Bundy, n'importe qui, il faut que tu ailles le défendre. Ouais. Moi, honnêtement, les gars, moi, la semaine de congé, là, ça l'aurait calqué dans le derrière pour dire ça. La façon...
Moi, fait la même chose.
J'étais intrigué par hier soir par le combat de Edgar Berlanga. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à New York, il y a une communauté portoricaine qui est énorme. Et on joue beaucoup sur le fait que c'est Miguel Cotto qui remplissait à rebord les événements là-bas au Madison Square Garden. Donc, quand Cotto s'est retiré, on s'est mis à chercher le prochain qui allait remplir les événements. Il y a eu quelques bonnes idées qui ont passé, mais ça n'a pas fonctionné. Et là, on s'est dit, Edgar Berlanga, il knock tout le monde au premier round. Après 12 ou 13 combats, on dit, OK, on va essayer. T'sais. Puis là, Berlanga a continué à knocker des gens. Et là, c'est devenu difficile. C'est fini, le Berlanga qui knock les gars au premier, parce qu'on a augmenté sensiblement son niveau d'adversité. Pour vous donner une idée, Marcelo Esteban Caceres a envoyé Berlanga au tapis, a perdu par 2 points. C'est lui qui vient affronter Éric Bazignan. Puis je ne veux pas vous faire peur, parce que hier, Berlanga a facilement gagné tous les rounds contre Alexis Romer Angulo, qui est un bon boxeur, combat un peu terne. Mais là, c'est parce que il a bien paru, là. Berlanga comme boxeur, Angulo n'a pas gagné un round, mais Caceres en a gagné des rounds. Moi, ce que je veux vous dire, là, puis je sais pas si ça. En tout cas, je vais vous le dire, ok? Arrêtez de tourner autour du pot, comme dirait ma grand-mère. Éric Bazignan va être défait par Marcelo Esteban Caceres. La boxe, la façon que ça fonctionne, tu peux pas prendre l'escalier au complet quand tu veux monter une marche. Les derniers adversaires de Bazignan n'avaient pas de bon sens. Puis là, tu veux arriver avec Caceres qui vient de brasser Berlanga. Ça marche pas de même. Il aurait fallu prendre 2 étapes avant Caceres. Caceres va l'emporter. Je suis désolé. Et en même temps, si jamais je me trompe, mais tant mieux, ça veut dire que Bazignan est vraiment un haut niveau. Puis ça va être parfait pour la boxe québécoise, mais ma prédiction finale, c'est que Caceres va arrêter Bazignan par KO en fin de combat. Donc, je vis avec ma prédiction, mais ça, c'est mon cerveau qui parle. Mais mon cœur veut voir tous les Québécois gagner. Pourquoi? Si on a plein de Québécois champions du monde, puis que la boxe reprend un buzz écœurant au Québec, qui va en profiter? Moi, parce que j'ai le meilleur podcast au Québec. Ensuite, en demi-finale... il y avait deux gars, je sais pas, je retrouve pas mes choses, là, deux gars qui avaient le même nom de famille. Ça, c'est un peu étrange, OK? Il y avait Henry Moncho LeBron qui a battu Louis Popeye LeBron. Ça, c'est un peu sans dessin, là, le même nom de famille. C'est mélangeant. Et sinon, il n'y avait rien pour appeler sa famille en sous-carte. Donc, Edgar Berlanga, ça va être intéressant. Moi, je vais faire une prédiction. On va monter vite à WBC. Attendez-vous à ce que Berlanga se cherche un adversaire du niveau à peu près à David Lemieux. Tu sais, un gars atteint, un gars usé, avec un nom. Là, il est rendu à cette étape-là où il bat ce qu'on lui donne, là, les tests dangereux. Là, on va peut-être essayer d'aller chercher des noms un peu à l'affiche ou des noms et des tests en même temps, en tout cas à suivre. James Munguia a battu Jimmy... Ouais, c'est ça, Berlanga, je vais juste vous dire, je vous ai vendu la haine puis je ne l'ai pas magané. Ben, ce que j'aime pas, c'est pas Berlanga en tant que tel, c'est quand on choisit quelqu'un, puis on décide d'en faire une superstar. Berlanga, son promoteur, l'a choisi. Puis là, il a dit, OK, c'est la grosse affaire. Puis là, maintenant, il gagne des combats serrés au juge. Il est en finale beaucoup trop vite. Ça me tape ses nerfs. T'sais, je trouve que ces choses-là devraient être méritées, pas acquises. James Munguia a arrêté Jamie Kilran Kelly. Lui aussi, ça m'écœure, Munguia. Pourquoi? On l'a mis... Il est devenu champion du monde trop vite. Fait que là, il est en train de faire sa progression. Il est en train d'affronter des gars que tu devrais affronter quand tu n'es pas champion du monde. Tu sais, c'est... Fais ta progression, puis tu deviens champion du monde après, puis vas-y dans les super fights. Là, il fait des petits combats, il progresse, puis après ça, il va se revirer pour les super fights. Il a battu Jimmy Kilran Kelly dans une carte présentée à Anaheim. Et là, après sa victoire, il a lancé un défi à Charlo. Il a dit à Charlo, arrête de te cacher derrière All Immune et passe aux choses sérieuses. En demi-finale, Oscar Wourado a battu Marc Bernandez. Fait que c'est ça, il a battu le champion WBO global, Jimmy Kelly, au cinquième round. Ce que j'aime bien de Munguia, par exemple, lui aussi a été choisi à l'époque pour être le dauphin de Canelo, on te l'a parachuté à toute vitesse. Ce que j'aime bien, c'est que Munguia lance beaucoup et lance avec de la méchanceté. Il est là pour faire mal, puis il est là pour closer le show. J'aime bien. Un gars qui lance 1000 coups de poing, puis que les 1000 ont de la puissance, là, je ne déteste pas ça. Dans l'autre catégorie de fraudeurs, mon troisième fraudeur, c'était Trevor Bryan, qui paralysait le titre WBA intérim, titre qui ne devrait pas exister, avec Don King, servait de Don King pour paralyser tout ça. Ça m'écœure. Trevor Bryan s'est fait arrêter par Daniel Dubois. Ça, c'est un petit peu... tant mieux pour Dubois qui met la main sur le titre intérim slash régulier, je ne sais plus. Là. Mais ce que j'ai souhaité, c'est que Bryan n'était vraiment pas de niveau. C'était pointé à 265 livres. Ce que je vais souhaiter à mon ami Daniel Dynamite Dubois, c'est que cette ceinture louche-là lui permette d'affronter un des vrais champions là, après qu'il ait fini de se battre entre eux autres, les Tyson Fury, Alexander Usyk puis Joshua. Un moment donné, on va en couronner un des trois. Et là, j'espère que Dubois, pendant ce temps-là, pourra peaufiner et avoir sa chance. Dans les nouvelles internationales, on reviendra aux résultats du week-end parce qu'il y a des Québécois canadiens qui se battaient et on reviendra à eux. Je vais continuer mes nouvelles internationales parce qu'il y a des choses qui m'ont titillé. Germelle Charlot, son frère Germal s'est fait challenger par Jay Munguia, mais là, Germel Charlot et Tim Zhu ont un accord pour la WBO. Puis j'ai hâte de voir parce que à l'époque, Erickson Lubin était un prospect, puis il était parti contre Charlot, puis Charlot l'a endormi. Là, Tim Zhu, c'est un prospect, ça a été super vite dans son cas. Il détruit la compétition, mais là, Charlot, c'est une moyenne marche, OK? J'ai hâte de voir si est-ce qu'il va juste manger une claque ou est-ce que ça va être son moment et il va mettre la main sur le titre et il va battre Germel Charlot. Donc, on a une entente pour le combat. Ce sera dévoilé plus tard. Du côté de le journaliste Michael Benson a annoncé que Fury négociait déjà pour affronter le gagnant de Joshua Usyk 2. Et Fury a tout de suite dit qu'il était à la retraite. Là, je me suis fait dire par des amis, un peu à travers mes contacts, il y a du monde qui m'a écrit « Hey, le tweet, c'est sûr que Fury va remonter dans le ring. » Mais je ne sais pas, moi. On n'est pas dans la tête de Tyson Fury. Il a déjà pesé 400 livres puis il prenait de la cocaïne. Ce gars-là, il est un peu imprévisible. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, mais s'il affronte Francis Ngannou dans une exhibition, puis après ça, il affronte Drew McIntyre en lutte, ça se peut qu'il trouve un moyen d'aller chercher des sommes d'argent astronomiques sans jamais boxer. Mais je vais être d'accord que les probabilités qu'il revienne en boxe sont très élevées parce qu'il n'a jamais abandonné ses titres pour vrai. Il s'est fait aller la marboulette, mais au lendemain de sa victoire, il n'est pas allé reporter la WBC dans sa valise. Donc, tout laisse croire qu'il va faire une exhibition contre Ngannou, qu'il va lutter contre Drew McIntyre à SummerSlam, mais qu'il va aussi prendre la revanche, prendre le gagnant de Joshua Usyk. On n'est pas fou, là. Du côté de Kubrat Pulev, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, je ne sais pas pourquoi j'ai mis Kubrat Pulev sur ma feuille mobile. Puis après ça, j'ai manqué de mémoire. Kubrat Pulev a déclaré que Alexander Usyk allait knocker Anthony Joshua cette fois-ci. Puis que c'était la fin de Joshua. Pulev, il a 41 ans, mais il est vraiment en bonne condition physique. T'sais, Pulev, c'est en plein le genre de boxeur qui pourra pas être champion du monde, mais qui donne encore des bons combats. Ah, c'est ça, le Pulev, il affronterait, il est prêt à donner une revanche à Derek Chisora. C'est ça qui est apparu dans ma tête. Et Pulev, lui aussi, veut profiter du délai, là, des champions qui se battent entre eux pour s'installer puis montrer qu'il est en train de devenir un gars que tu peux pas éviter, là. Il veut devenir le numéro 1 que tu dois affronter après. Parce que ça va être un peu ça, le buzz, là, tu sais. Fury, Joshua, puis c'est quel qui me manque, là. Il m'en manque toujours un, mais Fury, Joshua, Usyk vont s'entre-batailler. Et là, tu veux être le prochain sur la liste. T'sais. Tu veux être celui qui vient fermer le quatuor ou qui devient le prochain après, tu sais. Devin Haney m'a bien fait rire. Il a dit à Tank Davis, ton titre de la WBA régulier, prends-moi ça, puis pitch ça dans les vidanges, ça vaut rien. C'est quand même drôle parce que c'était le titre de Jean-Pascal. Puis là, ça fait deux personnes qui disent c'est des vidanges. Là, on a dit toute la fin de semaine que Daniel Dubois, c'était comme le titre numéro 2, puis c'était les vidanges, le titre de Trevor Bryan. Là, Annie, il rit de la ceinture à WBA régulière, mais nous, on faisait nos frais quand Jean-Pascal l'avait. Mais en même temps, on n'est quand même pas pour s'en prendre à nos propres Québécois. Mais oui, c'était une ceinture intérim qui est devenue régulière. Mais dans les livres d'histoire, c'est marqué qu'il est champion du monde. Je vous conseillerais d'aller écouter l'entrevue qu'on a fait avec Antonin Descaries. Quand même intéressant. Des questions que je voulais poser, là. J'ai entendu des rumeurs que Steve Claggett a failli affronter Teofimo Lopez. Je vous le dis, à un moment donné, Il va y avoir ces boxeurs-là dans trentaine au Québec, là, que ça pourrait être Zouski s'il revient, ça pourrait être Sébastien Bouchard, ça pourrait être Ulysse ou Claguette. J'ai l'impression qu'on a une liste de boxeurs qui sont très loin des combats de championnat du monde présentement, mais qui ont une belle crédibilité à l'international. Ou des belles fiches qui peuvent les rendre crédibles à l'international. Même, je rajouterais Simon Kane, trentaine belles fiches. Je vous le dis, il y a des Québécois qui vont être impliqués dans des combats contre des superstars internationaux, comme ils vont nous prendre pour nous marcher sur le corps, là, un peu comme Jaron Ennis a fait avec Custio Clayton. Bakodir Jalolov a knocké au 8e. Jack Mulowayi. Mulowayi, ça aurait été un candidat parfait pour Arslanbek Makhmoudov. Un gars qui est très tough. Même si j'étais, moi, si j'étais eux autres, là, je ramènerais Jack Mulowayi contre Simon Kane à Shawinigan, où j'avais trouvé un Nigérien 10 pieds 8 qui est 14-0. J'essaierais de trouver quelqu'un, un Africain, qui parle français, qui mesure 6 pieds 8. J'en avais trouvé un, je refouille mes affaires. Puis là, j'amènerais ça à Shawinigan, je ferais des promos. T'as arrêté un peu que les Canadiens, on les a toutes vus là, contre Simon Kane. Alors, c'est ma nouvelle stratégie. Trouver un Africain qui parle français, qui mesure 6 pieds 8. Amenez-le ici un mois à l'avance. Puis là, on fait de la promo. Il chicane en français. Puis on remplit le centre Otto Gervais. Donc, Bakodir Jalolov, lui, a battu Jack Mulowayi au 8e ronde. C'est la grosse affaire. Il va vraiment falloir le surveiller dans les prochaines semaines. George Camboso Jr. a exercé sa clause de revanche. Devin Haney devra possiblement retourner en Australie, le rebattre une deuxième fois. Naoya Inoue, cette semaine, a battu Nonito Donner au 2e round. Et tenez-vous bien, le Ring Magazine lui a donné la première position du pound for pound. Ils ont enlevé Alexander Usyk. Sébastien Fondora, qui mesure 6 pieds 7, pèse 154 livres, est prêt à descendre à 147 pour donner un vrai défi à Errol Spence. Ça m'a bien fait rire. Billy Joe Saunders, on entend deux rumeurs. John Ryder ou Demetrius Andrade. Ce serait quand même très intéressant. Oscar De La Hoya a reçu une offre de 1 milliard pour vendre Golden Boy. Et ça fait le tour des nouvelles internationales.
L'idée derrière tout ça, c'est que, tu sais, moi, le modèle pour mon gars, je veux pas que ce soit un gars qui a été à Occupation Double ou l'île de l'amour. Je veux que ce soit le gars qui nous fait toujours paraître mal quand notre blonde regarde ce gars-là. Mettons, Laurent.
Toujours en direct de ma cuisine de Rosemont, Montréal. Il y a deux, si ma mémoire est bonne, c'est deux boxeurs québécois qui ont réalisé, un exploit. Okay? Faut que je vous parle de Sean Thompson. Lui, il a tout fait sa boxe ici au Québec dans la FQBO. C'est un gars de Brossard qui a, avec son frère jumeau, ils ont déménagé à Toronto. Il a toute sa boxe, c'est les frères Grant qui leur ont enseigné. Et là, Thompson est déjà rendu à 4 victoires en 2022. Il est très actif. Okay? Il est allé, il a fait le vieux truc. Il est allé se battre deux fois en 6 jours en Colombie, qui est la technique Maslow-McDonough. Okay? Tu prends un voyage en Colombie, tu trouves deux combats. Lui, il est allé en Colombie. Bon, ça y est. Maudit box rec, la publicité a apparu par-dessus mes affaires. Il est allé en Colombie, il s'est battu le 5 mars contre Andrés Pérez, 6-6, il a gagné une décision. Et 5 jours après, il se battait contre Alberto Ramos, un gars solide de 26-12. Et il gagnait encore en KO deuxième. Et là, il affrontait sur une carte de Showbox Next Generation, il affrontait Tyler Tomlin. Showbox, la manière que ça fonctionne, ils font du matchmaking pour que ce soit égal. Ils mettent deux invaincus ou deux prospects. Comme là, pour vous donner une idée, en fin de semaine, il y avait George Arias qui a battu Alan T. Green. Split décision. C'était un combat très partagé. Il avait mis Bakodzir Jalolov, lui, était très favori, mais il avait mis Joe Jones contre Amron San, qui était un combat très partagé, qui s'est gagné par un point. Puis il a mis Tomlin contre Sean Thompson. Fait que le concept, c'est d'avoir une majorité de combats qui sont 50-50. Et là, lui, on l'a connu au Québec. Il a commencé à se battre avec la Tohu. Il a battu Dallin Rushton, Dave Leblon. C'est un bon boxeur, Sean Thompson. Un gars de Brossard. Mais là, l'affaire, c'est qu'il vient de battre Tyler Tomlin avec la télé américaine. Mais vous irez voir le combat. Il l'a pas juste battu. Il l'a dévissé. Il y a des moments, là, puis je sais que j'exagère, mais il avait l'air de Floyd Mayweather. Il est encore à corps. Il évite les quatre punches de l'adversaire. Mais pendant ce temps-là, lui, il en met quatre à noix à Tomlin. Puis Tomlin, c'était un bon prospect, là. C'est un gars du Tennessee qui avait une carrière amateur puis tout, là, qui avait du bon sang. Fait que moi, j'étais à terre un peu parce que Sean Thompson a fait, puis le fait qu'il parle juste anglais, puis qu'il est rendu à Toronto, même si c'est un gars de Brossard, ben oui, tu sais, malheureusement, Sean n'a pas eu beaucoup de promos. Même moi, j'ai oublié d'en parler. Mais cette semaine, on va vous le dire, là, répétez pas ça à personne, mais j'avais perdu un peu la motivation. Fait que je voyais des affaires passer, je les écrivais même pas sur BoxRec. Je vais vous dire, je me rends compte que la quarantaine vient avec des hauts et des bas. Des fois, j'étais comme vraiment démotivé. Puis je me disais, je leur en parlerai dans mon podcast. Puis là, en même temps, il y a des gens qui n'écoutent pas le podcast, mais je sais pas, j'arrive pas à avoir la motivation de mes 22 ans, là, ça reviendra. Donc, victoire de Sean Thompson, je vous le dis, c'est sur le bord de l'exploit. Dans un autre passage pro qui, lui, n'est pas un exploit, okay, parce que je veux pas casser du sucre sur le dos de mon ami Thomas Blumenfield, mais disons qu'il s'est pas pris ça trop difficile. Il est allé se battre à Choi Weekend Community Center dans la ville de Choi Weekend dans le Maine, et là il a frotté un adversaire de 0 victoire, 14 défaites, un Brésilien, puis il l'a battu au premier round. Bravo Thomas. Thomas qui est un réel talent, mais qui a décidé de prendre la voie un peu plus facile de knocker des inconnus dans le Maine en début de carrière au lieu de venir au Québec puis d'avoir un niveau d'adversaire acceptable parce que la régie au Québec, t'as à l'œil, tu peux pas affronter un 0-14 qui s'est fait knocker trois fois dans le même trois mois puis qui a joué vraiment exagérément avec son poids. Ici, ça va sauter. Mais au Maine, tu peux faire ce que tu veux. Puis on espère qu'il n'y aura pas d'accident parce que pas envie, moi, qu'il y ait un autre Québécois là, qui fasse un accident. Donc, c'est ça. Donc, ça fait le tour de l'international. Ici, je devrais placer une publicité, mais comme j'ai pas de commanditaire, il n'y aura pas de publicité. Donc, on se lance tout de suite dans un nouveau segment. Segment Arthur Beterbiev. Et Arthur Beterbiev va affronter Joe Smith la semaine prochaine au Hulu Theater du Madison Square Garden. Présentement, en boxe, il y a beaucoup de combats d'unification. On est gâté. Les meilleurs s'affrontent en 2022. La mode ne fera pas défaut ici où le champion WBC et IBF, Arthur Beterbiev, va affronter celui de la WBO, Joe Smith Jr. Donc, après avoir battu Steve Geffrard en janvier dernier, Joe Smith a déclaré « Je veux unifier les ceintures ». Je veux Arthur Beterbiev. Donc, regarde, tu le voulais, tu l'as. Lui, il a gagné sa ceinture en 21 contre Maxim Vlasov, Majority Decision. Depuis ce temps-là, il a gagné 4 combats de suite. Sa dernière défaite, c'est contre Dimitri Bivol. Il n'a pas gagné un round. Et là, ça nous amène à la semaine prochaine. Joe Smith, vous le connaissez, c'est un gars qui travaille fort, qui frappe fort, qui n'est pas doué. Je ne dirais pas qu'il est excessivement doué, Mais lui, son idée, c'est que le travail va amener du succès. Il n'a pas, mettons, le talent d'un Dimitri Bivol, mais il est prêt à laisser sang, eau et sueur dans le ring de boxe. Du côté de Beterbiev, je vais vous le dire, c'est un des gars les plus excitants en boxe présentement. Il est fou braque, il a 17 victoires, 17 KO. C'est un gars qui se concentre sur l'objectif puis il voit rien d'autre. T'sais, vous l'avez vu là, contre Marcus Brown, la face en sang. Il avait encore le radar puis c'était « je détruis Marcus Brown ». La face en sang, je pense que tu pourrais y enlever une jambe puis lui... Si l'objectif, c'est de détruire Joe Smith, il va s'arranger pour détruire Joe Smith. Beterbiev, pour la petite histoire, devenu champion du monde de la IBF en novembre 2017 en arrêtant Enrico Colling. 3 combats suivants, il rajoutait la WBC dans un combat historique contre Alexander Vozdzik. Et là, il s'en va pour un 3e titre. On va être honnête, là, Beterbiev est largement favori, mais j'ai jamais vu Joe Smith impliqué dans un mauvais combat. Par-dessus ça, Joe Smith est un gars qui est très populaire en sol américain. Ça va être très payant pour le legacy, pour la suite des choses pour Beterbiev d'arrêter ou de simplement battre Joe Smith. C'est parfait, surtout qu'on avait eu très peur pour ce combat-là parce que si on se rappelle, il voulait arrêter d'autoriser des combats avec des Russes, il voulait enlever les combats de championnat quand c'est des Russes. Donc, écoute, c'est inquiétant, là. Puis là, arrêtez de vous inquiéter, le combat va avoir lieu. La grosse force de frappe, le travail acharné de Beterbiev. Beterbiev qu'on réduit souvent à un simple cogneur, on oublie à quel point il est aussi bon techniquement, prend les bonnes décisions, fait ce qu'il a à faire dans le ring. Joe Smith, écoute, c'est le gros 1-2, c'est le gars puissant, c'est le gars qui a un menton en acier, c'est le gars qui est prêt à travailler sans arrêt dans un ring de boxe. C'est Arturi Lekkonen avec des souliers, donc ça va être assurément bon. Ma prédiction, Arthur Beterbiev par KO au 10e. Il va briser l'amour propre de Joe Smith comme il a brisé celui d'Alexander Gzovic. Puis là, on va rembarquer dans une discussion compliquée parce qu'on veut mettre Bivol numéro 1 de la division avec ce qu'il a fait sur Canelo. Mais là, Beterbiev va avoir 3 ceintures puis il va avoir des victoires importantes contre Vosdick, Brown et Smith par KO. Fait que là, tu vas te dire, ouais... C'est quand même gros tout ça. Beterbiev, est-ce qu'il va tomber? Est-ce que ça sera Beterbiev contre Jean-Pascal? Je pense pas. Est-ce que ce sera Beterbiev contre un aspirant obligatoire qui soit Callum Smith en Angleterre, Mathieu Boderlic en France, dépendamment qui va gagner? Est-ce qu'on va viser l'autre côté de l'océan pour la première défense? Est-ce que Beterbiev va dire « Moi, j'en ai rien à cirer ». Joshua Boitsi, le plus dangereux prospect au monde, amenez-moi-le. Je vais vous le dire, moi j'ai l'impression que le meilleur rapport qualité-prix, ça va être Callum Smith, parce qu'il mesure 6 pieds 3, il est anglais, il est ultra populaire, et il a fait la limite avec Canelo Alvarez, donc pour la règle de 3, c'est intéressant. Puis Bivol est promoté par Eddie Hearn en Angleterre, fait que tu vas mettre le feu, là, tu vas... En Angleterre, battre soit Callum Smith ou Anthony Yardé ou Joshua Boitsi, puis tu le fais devant les yeux de Eddie Hearn, qui lui est le représentant de Dimitri Bivol. Tu sais, la stratégie derrière tout ça, tu sais, vous voyez, ça c'est ma technique. Donc, on va écouter ça la semaine prochaine. Je sais même pas c'est à quel poste. Je m'en cache pas. Là. Ça doit être. Je sais pas si c'est RDS ou c'est un pay-per-view, mais là, vous ferez vos tâches de trouver ça la semaine prochaine. Hein. C'est pas. Je suis pas le TV Hebdo, moi, là. Aussi, je voulais vous dire, on va revenir au combat de sous-carte, là, parce que je repars en ordre chronologique. Justin Uni va se battre cette semaine, mercredi, en Australie. Eux autres, ils se battent le mercredi, ça les dérange pas. Le petit frère de Uni, Hon Uni, est sur la carte aussi. passe chez les pros. Mais Justin Huni, c'est un des bons poids lourds dans le monde. Et il y a moins de 72 heures, sa maison a été criblée de balles. Je pense qu'il y a une erreur sur la personne. Je ne sais pas trop ce qui est arrivé, là, mais bref, il a du mal à dormir un peu. Il va quand même être dans le ring mercredi. Ça, c'est quand même drôle, tu sais. Il essaie du home invasion chez vous, mais tu te bats dans 4 jours, tu sais. Veux-tu bien me laisser dormir? En Angleterre, vendredi prochain, Nathan Gorman, un poids lourd qui est quand même assez le fun à regarder boxer, va affronter Thomas Salek, 17-3. Gorman, c'est une machine à swinguer. Combat de la semaine prochaine. On est passé de une chronique à l'autre. Et je n'avais plus de publicité à vous faire entendre. Si on se dirige... Mohamed Ali va affronter... Ça me fait rire, ça. Il y a comme plein de monde qui s'appelle Mohamed Ali en Afrique. Celui-là, il est 6-0. Mohamed Ali du Ghana, mesdames et messieurs. 6-0 en finale. Ça, je sais pas, ça vient de me donner un sourire d'en face. Tant mieux. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, j'ai plus mal à la tête. Vous voyez? Parler dans un micro enlève le mal de tête. Et là, ça y est, je viens de perdre. Je trouve plus ma deux. J'avais deux pages de notes pour les combats de la semaine prochaine. Et je viens de perdre ma deuxième page. J'ai l'air intelligent. Imaginez si j'étais en direct. À télévision. Arthur Beterbiev va affronter Joe Smith, c'est ça, on en a parlé amplement. La demi-finale, c'est l'Olympien Robesi Ramirez contre Abraham Nova. Abraham Nova, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, là, il est écœurant. C'est un Portoricain qui habite à New York, lui aussi. Il est réellement très bon. Il frappe assez solide, merci. C'est lui qui a les cheveux noirs et se fait décolorer la barbe, un mélange entre du roux et du blond. Là. Je sais pas si vous le replacez. Abraham Nova. Mais c'est toute une demi-finale et on a pas su encore c'était quoi les autres combats. Une drôle de stratégie, ils vont nous apprendre ça plus tard. C'était les nouvelles internationales. Sur la scène locale, pour vrai, c'est rien passé. Fait que je vais pas essayer de vous pousser des nouvelles dans la bouche. Mais il se passe pas mal de choses. Il se passe beaucoup de choses sur la scène de la boxe olympique. Là, c'est vraiment reparti. Les arénas sont pleines. Il y avait des galas à Rive-Sud. Il y avait un gala à Vaudreuil. Il y avait un gala à Repentigny. Les gens sont encore très friands de boxe. Je vous dirais juste que leur façon d'aimer a changé. On dirait qu'il y a moins la boxe pro, mais ils sont prêts à payer pour encourager leur gym local. Ça, c'est pas quelque chose qui les dérange. Dans les nouvelles farfelues, Butterbean à 55 ans sortirait de sa retraite pour affronter Jake Paul. Ça me fait rire là, parce que ça a pas de bon sens, mais je vends-moi le pay-per-view, tu sais, ça a pas de bon sens, mais pour vrai, je vais pas manquer ça. Fait que c'est quand même spécial. Caroline Vert, passage chez les pros le 29 juillet prochain, confirmé. Boxing Town Québec. Ça va être partout des nouvelles cette semaine, surveillez ça. Donc, ça fait pas mal le tour de ton podcast préféré. On n'étirera pas la sauce outre mesure. La semaine prochaine, on va se concentrer sur la scène québécoise avec la Saint-Jean-Baptiste. On va recevoir en grande exclusive Martine Vallière-Bisson. Et j'ai une grande annonce à faire. Je prépare deux. Ça va être des hors-séries, là. Je vais les faire en vidéo. Je vais aussi les faire en MP3 pour les gens qui aiment m'écouter dans leur voiture. Je vais peut-être dévoiler ça tout de suite. Je prépare deux grands projets. Un pour la Saint-Jean-Baptiste, où je vais vous présenter Jack Renaud, de son vrai nom, Léonard Dumoulin. Un des boxeurs les plus accomplis du Québec, mais les plus oubliés. Et Tommy Burns, et je pourrais dire la même chose, les plus accomplis, mais les plus oubliés. Je vais faire revivre deux légendes. Et ça, c'est un projet que je m'étais dit en hommage à Martin Achard, mais où j'aurai jamais le talent de Martin Achard à l'écriture ou pour fouiller l'histoire, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Je vais prendre ce que le bon Dieu m'a donné et je vais essayer d'honorer la mémoire de Martin avec ces deux chroniques-là. Je vais faire mon possible, ça devrait être correct. Merci et à la prochaine.
L'idée derrière tout ça, c'est que, tu sais, moi, le modèle pour mon gars, je veux pas que ce soit un gars qui a été à Occupation Double ou l'île de l'amour. Je veux que ce soit le gars qui nous fait toujours paraître mal quand notre blonde regarde ce gars-là. Mettons, Laurent.